Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 20 mars 2024. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite pour des discussions sur la trêve à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine doit se rendre en Égypte demain jeudi avant de visiter Israël vendredi. Ici aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a suspendu une loi du Texas autorisant l'expulsion des immigrés quelques heures après une décision de la Cour suprême autorisant son entrée en vigueur. Les Sénégalais choisissent dimanche entre continuité et changement à leur tête.
Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire.
Le portrait de Bassirou Diomaye Faye, l'un des candidats de l'opposition dans la partie magazine. En RDC, le journaliste Stanis Boujakera est sorti de la prison de Kinshasa où il était détenu depuis septembre dernier. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est en Arabie Saoudite pour tenter d'arracher une trêve dans les combats dans la bande de Gaza. Il se rend demain en Égypte et sera vendredi en Israël. Nani Talani.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken est arrivé ce mercredi à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour des discussions avec le leadership saoudien sur les moyens de trouver un accord de trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Il doit se rendre demain jeudi en Égypte et se rendra en Israël vendredi, ajoutant une nouvelle étape à sa tournée au Moyen-Orient en pleine tension entre les États-Unis et l'allié israélien sur la conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, accuse Israël de saboter les négociations avec l'opération d'envergure menée depuis lundi contre l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'armée israélienne dit avoir tué 90 combattants du Hamas et du Djihad islamique dans ce complexe hospitalier et avoir arrêté plus de 300 suspects. Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est attendu la semaine prochaine à Washington, qui fait pression sur Tel Aviv pour éviter une offensive terrestre sur Rafah dans le sud, près de la frontière avec l'Égypte.
L'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui un don de 40 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens avec qui Israël est à couteau tiré. Les fonds soutiendront les efforts d'aide humanitaire de l'UNRWA dans la bande de Gaza en proie à la guerre entre Israël et le Hamas en fournissant de la nourriture à plus de 250 000 personnes et des tentes à 20 000 familles selon un communiqué du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman. La Cour d'appel des États-Unis pour la 5e circonscription, sise à la Nouvelle-Orléans, a suspendu la décision du procureur de l'État du Texas, retardant ainsi l'entrée en vigueur d'une loi controversée sur l'immigration. Eric Manirakiza.
Cette décision a incité l'administration Biden à déposer une requête d'urgence auprès de la Cour suprême pour examen. La loi texane, connue sous le nom de SB4, permet aux forces de l'ordre de l'État d'arrêter les personnes soupçonnées d'être entrées illégalement aux États-Unis, suscitant un débat sur les compétences en matière d'immigration. L'administration Biden a fait valoir que la loi violait la Constitution et la législation. L'administration Biden a fait valoir que la loi violait la Constitution et la législation fédérale, soulignant les préoccupations concernant le pouvoir réglementaire du gouvernement fédéral en matière d'immigration. Le juge Samuel Alito, qui traite certaines affaires d'urgence concernant un groupe d'États, dont le Texas, avait refusé mardi de geler une ordonnance judiciaire autorisant l'entrée en vigueur de la loi du Texas afin de donner à la Cour suprême plus de temps pour examiner la question. En février, les Républicains ont fait échouer un accord bipartisan au Sénat qui aurait permis de renforcer la sécurité aux frontières et de durcir les lois sur l'immigration.
L'ONU rappelle aux États leur devoir envers les réfugiés haïtiens. Le HCR rappelle aux États qu'il est impératif de garantir que les Haïtiens reçoivent la protection internationale du statut de réfugié dont ils pourraient avoir besoin. Haïti est le théâtre d'une flambée de violence des gangs ces dernières semaines alors que les Haïtiens attendent l'instauration d'un conseil présidentiel de transition après l'annonce de la démission du premier ministre contesté Ariel Henry qui expédie désormais les affaires courantes. La Russie a créé un climat de peur dans les zones occupées d'Ukraine où ses forces procèdent à des détentions arbitraires, tortures et tentent de supprimer l'identité ukrainienne, surtout chez les enfants, a annoncé l'ONU dans un rapport publié ce mercredi. La Russie impose la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes, tout en supprimant les expressions de la culture et de l'identité ukrainienne, précise le communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, au Sénégal, 7 millions de personnes sont appelées aux urnes dimanche pour voter dans le cadre d'une élection présidentielle après des semaines d'incertitude d'Ilidiko.
Les 19 candidats ont jusqu'à vendredi pour terminer leur campagne présidentielle. Amadou Ba, dauphin désigné par le président sortant Macky Sall, et Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système, affirment tous deux pouvoir l'emporter dès dimanche sans passer par un second tour. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est cité comme outsider. Cette élection est la plus ouverte des 12 présidentielles organisées depuis l'indépendance, dit Sidi Diop, directeur adjoint des rédactions du quotidien Le Soleil. Pour la première fois au Sénégal, le président sortant ne figure pas sur les bulletins de vote. Le président Macky Sall, qui s'est dans un premier temps attiré les louanges en renonçant à briguer un troisième mandat, a causé une onde de choc en décrétant le 3 février un report de dernière minute de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a contraint l'exécutif à organiser l'élection le 24 mars, avant la fin du mandat du président sénégalais le 2 avril. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans la soirée peu après la fermeture des bureaux de vote. La date du second tour n'a pas encore été fixée.
En République démocratique du Congo, le journaliste Anis Boujakera a été libéré la nuit dernière de la prison centrale de Kinshasa où il était détenu depuis septembre pour diffusion de fausses informations. Claire Morin-Gibou.
Le ministère public a retiré son appel. Stanis Boujakera est libre, a déclaré Patient Ligodi, le chef du journal en ligne Actualité.cd, dont M. Boujakera est également directeur de publication adjoint. Lundi, un tribunal de Kinshasa l'a reconnu coupable, entre autres, de diffusion de fausses informations. Il a été condamné à 6 mois de prison et à une amende d'1 million de francs congolais. Ayant déjà purgé sa peine pendant sa détention préventive, M. Boujakera a été libéré. Il était accusé d'avoir produit un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende, retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet à Kinshasa. Arrêté le 8 septembre, le journaliste était jugé depuis octobre. À l'issue du procès, le parquet avait requis 20 ans de prison. Le tribunal l'a condamné lundi à 6 mois de prison.
L'opposant Chérubin Okende a été enterré aujourd'hui, 8 mois après la découverte de son corps criblé de balles, dans une rue de Kinshasa. Les procureurs ont déclaré il y a maintenant plus de 2 semaines qu'il s'agissait d'un suicide. Sa famille biologique et politique n'ont pas accepté la décision et continuent de demander des rapports d'autopsie des enquêteurs indépendants internationaux. D'après les journalistes sur place, les membres du gouvernement n'étaient pas présents aux funérailles de cet ancien ministre du Transport et député national. Chérubin Okende était le porte-parole de Ensemble pour la République, parti de l'opposant Moïse Katumbi, richissime homme d'affaires et candidat malheureux à la présidentielle de décembre en République démocratique du Congo. Un tribunal rwandais a rejeté aujourd'hui la demande de restauration des droits civiques de Victoire Ingabire, figure de l'opposition au président Paul Kagame, une décision qui l'empêche de se présenter à la présidentielle du 15 juillet. L'opposant de 55 ans qui ne peut faire appel de cette décision avant 2 ans avait été déchu de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison, notamment pour minimisation du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Les comptes bancaires de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma ont été partiellement gelés suite à une décision de justice dans le cadre d'une affaire autour du financement de travaux dans sa propriété après son élection de 2009. Cette affaire ressurgit un peu plus de deux mois des élections générales qui s'annoncent tendues. Les Sud-Africains doivent renouveler le 29 mai leur parlement qui désignera ensuite le prochain président. Et puis dans l'est du Soudan, 15 personnes, dont un responsable sécuritaire local, ont été tuées lors d'une embuscade tendue contre leur convoi par des hommes armés. Peu après avoir quitté la ville de Rahat, le convoi a été pris dans une embuscade qui a causé la mort du commissaire du comté et de 14 autres personnes, dont une femme et un responsable militaire local, a déclaré le ministre de l'Information. Plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud est en proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique depuis son indépendance du Soudan en 2011. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La revue Fast Company a publié son classement 2024 des 50 entreprises les plus innovantes dans le monde. Le leader des technologies de paiement, Flutterwave, est en tête du palmarès pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, rejoignant des géants comme YouTube ou OpenAI. Olubenga Agboula, PDG de Flutterwave, a déclaré que son entreprise a créé des solutions pour faciliter le paiement, l'échange de devises et le commerce électronique d'envoi de fonds en Afrique. Fondée en 2016 en Californie, la fintech opère dans 12 pays africains, dont le Nigeria, le Ghana et le Kenya. La société technologique de mobilité mondiale Move a annoncé avoir levé 100 millions de dollars, portant sa valeur à 750 millions. Uber et Mubadala ont investi dans la start-up fondée par deux Nigérians en 2020 en réponse aux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains de la mobilité, le manque d'accès au financement automobile. Opérant sur 9 marchés en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, Move compte étendre ses activités de financement à 16 marchés ces deux prochaines années, principalement sur les véhicules électriques. Le gouvernement ivoirien a indiqué dans un communiqué que la Société financière internationale va presque doubler son financement en faveur de la Côte d'Ivoire à 400 millions de dollars pour soutenir les PME et le développement économique à travers les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Par ailleurs, un partenariat public-privé dans le domaine de l'habitat est en cours pour la construction de 5000 logements.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
On commence par la 13e édition des Jeux africains qui se joue au Ghana depuis le 8 mars. La finale opposera le Ghana et l'Ouganda après les demi-finales hier.
Les Black Stars se sont réservés cette place en finale après avoir battu en demi-finale hier 1-0 les Lionceaux de la Teranga du Sénégal. L'adversaire du Ghana, l'Ouganda, a réussi à s'imposer 4-2 face au Congo-Brazzaville au stade sportif d'Accra, la capitale ghanéenne. La finale de cette compétition masculine de football se jouera au stade sportif d'Accra le vendredi 22 mars 2024.
Le champion soudanais, le club Al-Hilal, jouera dans le championnat tanzanien pendant la guerre.
La Tanzanie a effectivement accepté d'autoriser le club soudanais d'Al-Hilal a joué dans son championnat de football à partir de la saison prochaine à cause de la guerre au Soudan qui oppose l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide, entraînant la suspension des compétitions sportives dans le pays. Les champions en titre de la première ligue soudanaise seront en action dans la ligue tanzanienne à partir du mois d'août, a déclaré ce mercredi le porte-parole de la Fédération tanzanienne de football, Clifford Marion Dimbo. Mais le club basé à Khartoum ne sera pas éligible pour remporter le championnat. Ces matchs ne compteront que comme des matchs amicaux.
Au Cameroun, le footballeur Nathan Douala est autorisé à disputer les play-offs.
Rappelons d'abord, Jean-Roger, que les accusations de falsification d'identité et d'âge font partie des sujets les plus débattus ces derniers jours sur les réseaux sociaux, surtout concernant les Lions Indomptables. C'est ce qui a d'ailleurs conduit la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, à exclure pendant un temps Nathan Douala des play-offs pour cause de double identité. Mais le footballeur camerounais est désormais autorisé à jouer puisque la Fédération n'a pas pu prouver ses accusations. Nathan Douala fait partie des 13 joueurs dont les suspensions ont été levées parmi les 64 joueurs bannis par la FECAFOOT.
Page de sport VOA Afrique signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le candidat désigné pour remplacer son président Ousmane Sonko dans l'élection présidentielle de dimanche prochain. Se présentant comme le candidat anti-système du panafricanisme, il affirme vouloir reconquérir la souveraineté du Sénégal. Davantage avec Blanche Sanou.
Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko, est l'un des principaux prétendants à la présidence au Sénégal. Il organise une série de rassemblements dans le cadre de sa campagne électorale. Il a souligné son intention d'introduire une monnaie nationale pour remplacer le franc CFA, hérité de la colonisation française, et de mettre en œuvre l'enseignement de l'anglais dans les écoles où le français est la langue officielle. Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidence.
Ne doit pas accepter autour de certaines questions qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire.
Bassirou Diomaye Faye, libéré de la prison, affirme qu'il va réformer les institutions en limitant les pouvoirs du président, en créant une vice-présidence et en réformant le code pénal pour le rendre conforme aux valeurs et besoins actuels. Écoutons Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidence.
Il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire.
Faye affirme aussi qu'il va renégocier les contrats miniers et d'hydrocarbures et réévaluer les accords de pêche et de défense. Pour sa part, Ousmane Sonko, leader du PASTEF, un parti dissous au Sénégal, s'est engagé à aider son équipe à remporter l'élection présidentielle, même s'il est exclu du scrutin et s'est lancé dans la campagne depuis sa sortie de prison. Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise.
Ce qui doit se faire, se fera. Donc, c'est pour dire que nous ne considérons pas les choses. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait.
Durant leur campagne, l'équipe Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, a réitéré certains de leurs thèmes favoris, comme la nécessité de lutter contre la corruption et protéger l'économie sénégalaise de l'influence des puissances étrangères.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Boujakera a été libéré dans la nuit d'hier de la prison centrale de Kinshasa, où il était détenu depuis septembre. Sa libération intervient après sa condamnation à 6 mois de prison pour un document des services de renseignement que les autorités disent faux, lié à la mort de l'opposant Chérubin Oukendé. Eddie Sango adjoint à Kinshasa, l'un des avocats du journaliste Boujakera, maître Jean-Marie Kabengela.
Notre client Stanislas Boujakera Diamala est libre depuis hier à 22h, il est maintenant chez lui.
Mais pourquoi a-t-il été libéré à ces heures tardives? Est-ce que la loi congolaise permet cela?
Oui, nos lois congolaises permettent que pour la remise en liberté d'une personne, quel que soit le moment où la liberté lui est reconnue, de redevenir libre.
Nous avons appris qu'il y aurait un appel du ministère public. Qu'est-ce qui va se passer si cet appel était confirmé?
Si l'appel est confirmé, il revient à la juridiction saisie d'appel de fixer l'affaire pour inviter les parties à présenter leurs moyens au niveau de l'appel. Quand bien même il y aurait appel, le prévenu recevra en l'état où le premier juge l'a placé. à ce que le motif, quand bien même il est condamné, tant qu'il court le délai d'appel, tant que le juge d'appel n'aurait pas visé sa saisine juste en cassation, la personne condamnée reste dans le statut de prévenu. Il n'est pas définitivement condamné.
Stanis Boujakera sort de la prison, mais il a été condamné à 6 mois de prison. Qu'est-ce qui explique cela?
Parce qu'il avait déjà fait plus de temps que 6 mois en détention. Et le temps de détention a toujours été compté parmi le temps de condamnation.
Les journalistes ont été condamnés pour un document qui est relatif au décès ou à l'assassinat de M. Chérubin Okindé qu'on enterre aujourd'hui. Il a été déclaré que c'était un suicide. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Notre plan n'est de près ni de loin impliqué dans cette affaire. Il n'est pas le magistrat enquêteur pour avoir une opinion sur les raisons, le mode de meurtre ou d'assassinat de suicide de M. Chérubin Okindé. Et donc, il est très loin de la piste de ce qui est investigué. Et donc, il ne peut ni contredire ni confirmer les enquêtes du parquet.
Et les documents en question, en était-il l'auteur ou en était-il celui qui l'a divulgué? C'était un vrai document ou pas?
Les enquêtes, aussi bien les expertises du ministère public ainsi que celles du tribunal ont démontré que l'ordinateur de notre client n'a pas fabriqué le document, que ses téléphones n'ont pas reçu le document et n'ont pas non plus transmis le document.
Maître Jean-Marie Kabengela, avocat du journaliste Stanis Boujakera.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La crise sécuritaire au Burkina Faso a des répercussions étendues sur l'économie du pays, touchant divers secteurs dont celui de l'exportation du bétail, en particulier dans la région de la boucle du Moon, fortement affectée par le terrorisme. L'accès à la viande de ruminants domestiques est devenu extrêmement difficile. Gildas Dahl, l'un de nos correspondants, s'est rendu dans la zone pour examiner de plus près cette situation alarmante, au-delà de la tragédie humaine que représentent les déplacements internes.
Au marché de bétail de Dédougou, communément appelé Garbal, les tractations sont en cours entre clients et vendeurs. Dans cette localité située dans une zone à fort défi sécuritaire à 230 km de Ouaga, réussir à vendre les animaux est le rêve de tous les vendeurs. Les bêtes se font de plus en plus rares. Au grand dam de Amidou Diallo, vendeur de bétail.
On a trop de soucis ici. Cela fait plus de 30 ans que je vends le bétail. Mais actuellement, personne ne peut aller dans les villages pour en payer au risque de ne pas revenir. À ce jour, on ne peut aller à plus de 7 à 10 km pour chercher les animaux. On peut encore aller dans des villages comme Fapuna, Boulani, Tchériba. Au-delà, on prend le risque de ne plus revenir vivant. Actuellement, on ne dispose pas de plus de 20 têtes dans nos enclos. Avant, les bêtes venaient de Boura, de Dié, de Sono. Actuellement, toutes ces zones sont inaccessibles.
Au Garbal, le bétail arrive au compte-gouttes, surtout les petits ruminants. Rien à voir avec la période faste dont se souvient Victorien Yen, lui aussi vendeur de bétail.
Avant, on pouvait avoir une dizaine de têtes de petits ruminants à vendre par jour. Mais actuellement, on en reçoit 2 ou 3 au quotidien. On se débrouille avec cela. Ça se répercute sur le prix de la viande. Il était facile d'avoir 500 francs de viande. De nos jours, c'est de plus en plus difficile d'en avoir à ce prix-là.
À Dédougou, les femmes sont les premières à ressentir cette hausse des prix du coût de la viande au marché. Biba Koulibaly, ménagère, ne nous dira pas le contraire.
Auparavant, on payait la viande à 300 ou 500 francs. Actuellement, il faut minimum 1000 francs pour avoir de la viande fraîche. C'est vraiment difficile.
Et les complaintes des dames, les bouchers de Dédougou les ressentent au quotidien. Le prix de la viande augmente et ils n'y peuvent rien. C'est le cas de Bouba Guité, boucher, contraint par les faits.
Avant que certains villages ne soient dégagés par les terroristes,
tout allait bien. On se faisait des bénéfices. Actuellement, rien ne va plus. Les localités où nous partions payer le bétail ont été déguerpies et les habitants ont rejoint Dédougou. Les rares animaux que des vendeurs nous apportent sont trop chers. Les chèvres que nous achetons à 15 000 francs CFA coûtent 25 000 francs de nos jours. D'autres qui valaient 30 000 sont montés à 40 000, voire 45 000 actuellement.
Comme pour les autres intervenants de ce reportage, ce boucher n'a qu'une espérance en tête.
Notre prière est que le pays retrouve la paix. Tous ces problèmes sont dus à la crise sécuritaire.
Dédougou souffre depuis un certain temps de multiples difficultés, dont celle de l'approvisionnement en bétail et viande. Les populations espèrent un dénouement heureux. En attendant, elles prennent leur mal en patience face au coût des produits tels la viande qui continue de croître. Gildas Da, de retour de Dédougou, VOA Afrique.
Alexandrine Cronogno avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. La junte au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Quelles implications en termes de sécurité nationale pour le Niger? Quels sont les possibles scénarios futurs en termes de relations diplomatiques entre le régime militaire et les États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
C'est la journée internationale de la francophonie en ce 20 mars avec l'écrivain togolais Kossi Efoui. Nous explorons les défis rencontrés par la plupart des élèves francophones dans l'apprentissage du français. Dans son dernier ouvrage « Une magie ordinaire », l'auteur relate ses souvenirs d'enfance et la punition infligée aux enfants qui parlent le vernaculaire. Une punition sous la forme d'un symbole. Kossi Efoui nous décrit d'abord cet objet au micro d'Alexandrine Ollognon.
Cet objet, c'était un carré de peau de bouc, de peau de chèvre, de peau de mouton en tout cas. C'était un carré de peau d'animal domestique avec les poils dessus et puis une cordelette qui servait à l'accrocher au cou de l'élève et qui était surpris en train de dire quelques mots de sa langue maternelle. On était au primaire et on avait l'injonction d'apprendre à parler très rapidement la langue française. Et donc, la méthode utilisée, c'était juste les mêmes méthodes d'humiliation qui étaient utilisées en France, dans d'autres régions françaises, pour imposer la langue française. Et en Bretagne, par exemple, ça s'appelait le symbole. Et dans la cour de récréation, au Togo où j'étais, ça s'appelait le signal. Et l'élève qui l'avait était obligé de surveiller ses camarades et d'accrocher cet objet donc au cou d'un autre camarade surpris en train de parler sa langue maternelle.
Comment ces expériences ont-elles façonné votre identité et votre perception de la langue française?
Disons que j'ai échappé à cette idéologie qui voudrait installer une hiérarchie entre les langues qui supposait que la langue française était apte à exprimer des concepts scientifiques, à exprimer la poésie, et puis que ma langue maternelle était à jeter, quoi, pour dire les choses clairement. J'ai échappé à ce conditionnement par une expérience qui est celle de la traduction, une autre expérience qui est celle de la rencontre avec les poètes. L'expérience de la traduction, c'est avec ma mère qui me demandait ce que j'avais appris à l'école, et j'étais en situation de traduire ce que j'apprenais dans la langue française. J'étais en situation de mise en situation par ma mère, qui ne parlait pas français, il faut le préciser, mise en situation de traduire en éveil ma langue maternelle, ce que j'apprenais dans la langue française. Et cette expérience de la traduction, évidemment, abolit de fait toute hiérarchie entre deux langues. Si on peut passer d'une langue à l'autre, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est qu'il y a équivalence possible, en tout cas. C'est ce que raconte la traduction et c'est l'expérience que j'ai vécue. La deuxième expérience, c'est celle de la rencontre avec les poètes. C'est de découvrir qu'on peut prendre en otage une langue pour en faire un moyen de domination. Mais à l'intérieur de cette langue, il y a d'autres visions du monde qui est portée par d'autres philosophes que ceux qui prônent la domination dans cette langue et qui est portée par des poètes essentiellement dans cette langue. Et ces deux expériences m'ont amené à un rapport, en ce qui me concerne, un rapport apaisé à la langue française.
C'était Kossi Efoui, écrivain togolais. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.